Jésus-Christ, nous l'avons chanté, nous l'avons dit. Seul ton esprit peut nous faire entendre comme il faut la parole que nous allons écouter, qui va être lue dans la Bible. Jésus l'a appelé l'esprit de vérité qui doit conduire l'assemblée dans toute la vérité, qu'il vienne nous conduire vers la vérité qui est Jésus-Christ. Et aussi, il est appelé l'esprit de sainteté, c'est-à-dire, il nous donne de faire ta volonté, d'être saint comme toi, Père, tu es saint, qui nous conduise dans l'obéissance. Il est aussi appelé un esprit dont le fruit est l'amour, alors, qui nous révèle cet amour que tu as mis, que tu as manifesté en ton Fils, qui est venu dans le monde. Amen. La première lecture, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 16.
Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit, et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire, car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On les connaît, les œuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a aucune loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit.
Maintenant, dans l'évangile, c'est dans l'évangile de Jean, ce sont les textes qui sont proposés pour ce dimanche dans les églises réformées, dans les églises catholiques. Jean 15, où on lira deux versets, les versets 26 et 27. Donc c'est une partie de ce long enseignement que Jésus donne le dernier soir à ses disciples. Jean 15 au verset 26. Lorsque viendra le Paraclète que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, y rendra lui-même témoignage de moi, et vous aussi, vous rendez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et encore au chapitre 16, à partir du verset 12, donc on voit quelques versets plus loin. Donc Jean, chapitre 16, au verset 12, Jésus dit encore, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Il dira ce qu'il entendra, il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. » La fonction essentielle donc du Saint-Esprit, d'après ce passage de l'évangile de Jean et d'après tout l'évangile de Jean, c'est de témoigner. De témoigner dans nos cœurs de Jésus, de ce qu'il est lui. Partageons maintenant la gloire de son Père. Partageons tout avec son Père. Et nous avons écouté trois autres textes ce matin déjà, qui parle aussi du Saint-Esprit sous un autre angle. Le psaume 104, que j'ai lu avec Olivier, il nous parle de ce souffle que Dieu envoie pour que même les animaux existent, pour que l'être humain existe. Je rappelle le psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés. » Le mot souffle, le mot esprit, c'est la même chose. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Verset 29. Tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Donc il y a une œuvre dans toute la création du Saint-Esprit. Nous avons aussi écouté l'épître aux Galates que Claude nous a lu. Ce passage de Galates que nous avons écouté nous rappelle que le Saint-Esprit est non seulement à l'origine de notre vie, c'est lui qui nous a enfantés à la vie en Christ, la vie éternelle de Dieu. Mais ce même Saint-Esprit aussi nous conduit, doit nous conduire dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les comportements que nous avons, dans les paroles que nous disons, dans les décisions que nous prenons, dans les actes que nous faisons. Le Saint-Esprit, nous devons compter sur lui pour que la vie chrétienne se manifeste dans notre quotidien. Je rappelle le verset 25 de Galates 5, « Si nous vivons par l'Esprit, suivons-le aussi. Suivons, marchons sur les pas du Saint-Esprit. » Et suivre les impulsions du Saint-Esprit, c'est un message que les Galates avaient justement tendance à oublier. Pourquoi ? Quand on lit l'Épître aux Galates, on voit qu'ils avaient commencé à dévier et suivaient la loi. Oh ben, une loi qui est bonne, la loi que Dieu a donnée à Israël, la loi juive. Ils suivaient la loi, et Paul dit, mais c'est pas ça que vous devez faire. Vous êtes appelés à suivre l'Esprit Saint, à laisser votre vie dirigée par l'Esprit Saint, exprimer, que votre vie exprime la vie de Dieu par l'Esprit Saint en vous. Et alors vous accomplirez la loi bien mieux que si vous vouliez l'accomplir par vous-même. De toute façon, et ça c'est le verset qui était aussi dans le passage que Claude a lu, de toute façon, la vie humaine, la chair, s'oppose à l'esprit. Et l'esprit s'oppose à la chair. Et vous ne pouvez pas faire avec votre nature humaine, vous ne pouvez pas faire la loi de Dieu. Vous ne pouvez même pas, vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Ce sera même pire. Et on voit bien que parfois les péchés dans l'Église sont pires qu'à l'extérieur. Il faut lire l'histoire de l'Église, ce n'est pas glorieux. Parce qu'on a oublié que nous ne suivons pas une loi. Nous suivons le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit à qui nous devons laisser toute la place dans notre vie. Et alors, qu'est-ce qu'il produit, le Saint-Esprit ? Ben, il produit un seul fruit, c'est au singulier, un seul fruit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà tout ce que produit le Saint-Esprit. Et ça, ce sont des qualités, on ne peut pas dire que ça contredit la loi. Alors, si on a ces qualités, toute la loi est accomplie. Mais ces qualités-là, si nous voulons les acquérir comme on acquiert, je ne sais pas moi, un compte en banque bien fourni, ben on n'y arrivera pas. Il y aura toujours un moment où, quand on veut être patient par soi-même, on pète un plomb. Il y a toujours des moments où on pète des plombs. Si on veut dire, ah, je vais aimer maintenant, je vais aimer tout le monde. Je vais aimer tout le monde. Meilleur moyen de n'aimer personne, d'ailleurs. Parce que si on aime une personne, on voit que c'est difficile. Et on voit qu'on n'y arrive pas. On voit qu'on fait toujours des fautes dans l'amour. On voit qu'on a toujours besoin de demander pardon. Mais si le Saint-Esprit donne l'amour, cet amour-là est sans aucune faute. Mais ce message de Paul aux Galates est toujours d'actualité. Nous ne croyons pas que ça, c'était juste un petit problème qui se posait dans les églises de Galatie, là, qu'aujourd'hui, nous, on a 2000 ans d'expérience, l'Église n'a plus tous ces problèmes. Non seulement on les a, mais ce sont des problèmes que même les non-croyants rencontrent sans arrêt. On se met sous des lois, et ces lois nous tuent. Ce sont des lois qu'on s'impose parfois inconsciemment. Parfois, on est sous des lois, on ne sait même pas qu'on s'est mis des lois dans notre tête. C'est inconscient que ça se produit. Par exemple, les adolescents qui veulent à tout prix être libres, libres de toute autorité parentale, ils obéissent à des lois. Ils obéissent à la loi, il faut être comme tous les autres. Il faut surtout ne pas se distinguer des autres. Il faut être vraiment comme les camarades de classe. Vice-versa, on peut faire fonctionner le machin dans l'autre sens. Les adolescents qui ne font que obéir aux parents, est-ce qu'ils se développeront dans leur propre personnalité? Vous voyez que quand on s'impose des lois, ce n'est pas la vie de Dieu. Et ne croyons pas que le monde moderne a échappé à cette malédiction de la loi. Parce qu'il y a un grand individualisme dans notre société occidentale. On ne veut surtout aucune loi. On transforme sans arrêt les lois pour laisser encore plus de liberté à l'individu, pour que surtout que la liberté individuelle ne soit pas bridée par une loi. Et même les gens les plus individualistes sont sous des lois. Et pour moi, il y a un signe de cela, c'est le nombre de suicides qu'on constate dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis une loi, je ne suis pas digne de vivre. On s'est mis une loi, je ne ressemble pas à une norme, je devrais être comme ci, comme ça, et je n'y arrive pas, donc je ne suis pas digne de vivre. Il y a des étudiants en Inde qui se suicident quand ils ratent leurs examens. En Corée aussi, j'ai entendu parler de ça quand j'étais en Corée. Ils se suicident. Parce qu'ils se sont mis une loi. Il faut que je réussisse mes examens. Ma vie en dépend. Mais non, ta vie ne dépend pas de la réussite aux examens. Ta vie, c'est Dieu qui te la donne. La vie du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu à laquelle tu es appelé. Avec ou sans examen, mais suit la loi de l'esprit de vie. Voilà ce que Paul nous dit. Dieu nous donne effectivement une loi, mais on peut presque dire que ce n'est plus une loi, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, c'est une personne. L'Église a beaucoup insisté sur ce fait que l'Esprit Saint est une personne. Et l'Église se base sur des textes qu'on trouve justement dans la Bible. Par exemple, un verset bien connu, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut attrister une table, comme ça, un objet? Je peux l'attrister, cette table. Elle va avoir un sentiment de tristesse. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Il n'est pas une puissance. Il est une personne. Et donc, s'il est une personne, comment est cette personne en nous? C'est une personne aimante. C'est une personne pleine d'indulgence qui ne nous condamne pas. Parce que le sang de Jésus est déjà sur nous. Le Saint-Esprit vient parce que le sang de Jésus est sur nous. Et cette personne nous conduit dans l'amour de Dieu, la recevoir et le vivre. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Ça, c'est le message de Paul aux chrétiens de Galates. On peut encore parler du Saint-Esprit d'une troisième façon. C'est dans le récit des Actes, ce que j'ai oublié de vous lire. Alors, je vais demander à Jacqueline de venir le lire. Ça faisait partie de la liturgie. Je vais passer aux oubliettes. Alors, on va écouter dans Actes, chapitre 2.
Alors, Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout d'un coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. »
Ce texte du livre des Actes nous parle d'un autre aspect du Saint-Esprit qui permet aux disciples de raconter les merveilles de Dieu. Dans chaque langue parlée sur cette terre. Cela me fait penser au travail admirable de traduction de la Bible dans toutes les langues. Dans toutes les langues parlées du monde, on cherche à traduire la Bible, même des groupes qui n'ont que quelques centaines de personnes. On essaye de traduire la Bible dans leur langue à eux. Et évidemment, ce travail-là doit être subventionné par d'autres chrétiens parce que ces centaines de personnes qui reçoivent la Bible dans leur langue, ils ne peuvent pas la payer à la valeur que ça vaut. Ce sont des années entières de travail pour traduire la Bible. Mais voilà, les chrétiens suivent cet objectif que tout le monde doit pouvoir lire les merveilles de Dieu dans sa langue. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais ici, vous voyez que le jour de la Pentecôte à Jérusalem, les merveilles de Dieu ont été racontées, célébrées instantanément, dans toutes les langues. Tout le monde pouvait comprendre les merveilles de Dieu. C'est le phénomène inverse de la tour de Babel. À la tour de Babel, les hommes ont commencé à parler des langues différentes. Ils ne se comprenaient plus les uns les autres. Donc ils se sont dispersés. C'est l'origine des civilisations différentes que nous connaissons aujourd'hui. Et cette diversité de civilisations, c'est une bonne chose, d'après la Bible. Ça empêche que les hommes espèrent pouvoir toucher eux-mêmes le ciel. et cette diversité de civilisations, elle ne sera plus jamais abolie. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que les nations entrent dans la Nouvelle Jérusalem avec chacune ses particularités, sa civilisation à elle. Toutes les civilisations vont être regroupées dans la Nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, quand on se promène dans Israël, on est vraiment étonné de voir toutes les civilisations, toutes les nations différentes qui prient dans leur langue, qui chantent des cantiques dans leur langue, qui lisent la Bible dans leur langue, sur tous les différents lieux où se sont passés les événements dont parle la Bible. Il y a 36 ans déjà, dans un bus à Jérusalem, j'avais compté, en période ordinaire, il n'y avait pas de touristes, mais j'avais compté 7 langues parlées dans un même bus. Il y a une petite chapelle, une petite cour sur le mont des Oliviers où il y a le Notre Père dans des tableaux en céramique, toutes les langues parlées, même l'alsacien. Voilà. Je n'ai pas trouvé l'auvergnat encore. Voilà. Donc Dieu respecte la particularité de chaque peuple et veut que chaque peuple entende dans sa langue, comprenne les merveilles qu'il a faites en envoyant son fils Israël, en envoyant Jésus, son fils unique. Ce phénomène existe-t-il encore? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, je suis allé voir la faculté de théologie protestante à Jérusalem, dirigée par le pasteur Elbaz. J'ai dit, comment vous qui êtes petit-fils de rabbin orthodoxe, hein, pas un rabbin qui mélangeait tout, mais rabbin orthodoxe, petit-fils, et tes parents étaient tous les deux juifs, comment se fait-il que toi tu es pasteur? Alors il m'a dit, je devrais aller faire des études de théologie juive, et en y allant, en Suisse, j'étais parti pour aller en Suisse, je me suis arrêté, je suis entré dans une assemblée évangélique. Et quelqu'un a parlé en hébreu et a loué Dieu en hébreu. Cette personne ne savait pas l'hébreu. Moi, j'ai compris ce qu'elle avait dit. Je me suis converti à Jésus-Christ. Et puisque nous sommes dans l'Église réformée, nous savons qu'au XVIe siècle, quand les pasteurs étaient tous éliminés, il y avait dans les assemblées des enfants capables de raconter les merveilles de Dieu en français. Le français, je vous le rappelle, à l'époque, n'était pas une langue dans toute la France. C'était la langue des érudits. Les gens des villages ne savaient pas le français. Et ils savaient dire les versets de la Bible. On éliminait les Bibles, on éliminait les pasteurs. Eux, ils racontaient la parole de Dieu en français, sans l'avoir apprise, sans l'avoir jamais lue, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, Dieu veut que les merveilles qui le concernent soient racontées dans toutes les langues. Maintenant, je reviens au début de la prédication, l'évangile de Jean, qui nous raconte d'une manière tout à fait différente encore l'œuvre du Saint-Esprit. Il est envoyé depuis que Jésus est à la droite du Père. Il y a même un verset dans Jean 7 où on nous dit « Il n'y avait pas encore d'Esprit » parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, c'est Jean 7, 39. Toujours vérifier quand on cite de mémoire. « Il n'y avait pas encore d'Esprit » Vous pouvez vérifier, Jean 7, 39. « Il n'y avait pas encore d'Esprit » Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ah bon? Mais alors, les prophètes, Moïse, tout ça, ils n'avaient pas l'Esprit? L'évangile de Jean a une perspective très particulière concernant l'Esprit Saint. Parce que tout est déterminé par le fait que Jésus, la parole de Dieu, a été faite chair. C'est un événement qui chamboule toute l'histoire. qui renouvelle à la racine l'histoire humaine, et même la création est renouvelée à la racine même. La venue de Jésus, il y a un avant et un après. Et c'est dans sa venue en chair, et aussi dans sa glorification par l'élévation vers Dieu par la croix, que l'Esprit Saint peut être donné. Tout dépend maintenant si Jésus est glorifié ou pas. Est-ce que Jésus a été crucifié? Bon, tout le monde va me dire oui. Bon, il est crucifié. Mais il y a des paroles qui accompagnent ce message de la croix. Que cette croix n'est pas la honte de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Pour nous, c'est une honte. Mais pour Dieu, c'est la gloire. Il a glorifié son Fils. C'est la gloire de Dieu. Et maintenant, il a élevé son Fils à sa droite. Et le résultat que la gloire est venue dans ce monde et qu'elle restera dans ce monde, c'est que le Saint-Esprit t'a envoyé. L'Esprit de la gloire. L'Esprit que Jésus appelle ici l'Esprit de vérité. Et c'est pour vous qui êtes ici dans ce temple, c'est pas difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Esprit de vérité. Parce que vous avez un verset. Donc vous savez de quelle vérité on parle quand on dit Esprit de vérité. C'est l'Esprit qui témoigne de la vérité de Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui témoigne que ce que Jésus est maintenant réellement, et qu'il vous le témoigne au plus profond de vous-même. Et lui-même, cet Esprit venant en nous, nous se témoigne. J'ai grandi dans une famille protestante et puis j'ai fait tout ce qu'il fallait toujours faire, lire la Bible et tout ça. Je ne le regrette pas parce que ça m'est bien utile maintenant. Et puis il fallait aussi témoigner. Alors on m'a envoyé dans des camps d'évangélisation. Je me rappelle que j'étais complètement paumé sur une place à Amsterdam où il y avait des drogués. Il fallait témoigner de Jésus-Christ. Je ne savais même pas quoi dire. Bon, mais il fallait témoigner. Allez, on va témoigner. Bon. Enfin, j'ai quand même vécu des choses merveilleuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire, témoigner? On peut s'imposer ça comme une obligation? Ah, il faut que je témoigne de Jésus. Ce n'est pas une obligation qu'on s'impose. Ça fait partie de la nature de celui qui reçoit l'Esprit. Ça fait partie de la nature de celui qui est fils de Dieu. Jésus lui-même est témoin. De toute sa vie, toute sa vie, lui-même est témoin. Et pourquoi est-il témoin? Parce qu'il n'est jamais seul. Jamais Jésus n'est seul. Il dit, je ne suis pas seul. Vous allez tous m'abandonner, mais moi, je ne suis pas seul. Vous allez me laisser seul, mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Et Jésus est témoin parce qu'il y a toujours son Père avec lui. Et c'est exactement pareil pour nous. Ne cherchez pas à être témoin sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, avec vous en permanence, pour que votre témoignage se perpétue, que ce soit le témoignage de Jésus dans ce monde qui se continue. Et c'est notre nature d'être témoin. Je pense à celle qui était à ce micro il y a quelques semaines, là, à Martine Duterte. Bon, vous avez entendu qu'elle avait une tumeur cancéreuse au cerveau, et il lui restait quelques jours à vivre. Vous avez entendu que cette tumeur a disparu que par la puissance de Dieu. Maintenant qu'elle est guérie, qu'elle est là devant nous, elle est témoin, tout simplement par le fait qu'elle existe. Qu'elle existe en tant que personne guérie. Et nous, nous existons en tant que qui? En tant que simple être humain, né d'un père et d'une mère. Certains sont nés par des fifs, par des manipulations, je ne sais plus maintenant, il y a tellement de trucs. Mais nous existons en tant que qui, là? Nous existons ici en tant que fils de Dieu, en Jésus-Christ. Et notre simple fait que nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes témoins. Nous avons une identité qui est l'identité d'être témoin parce que nous sommes fils de Dieu. Et nous ne sommes pas séparés du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous était retiré, non seulement la vie physique vous serait retirée, mais même la vie, et aussi en plus forte raison, la vie en Dieu vous serait retirée. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, parce que nous, sinon nous ne serions plus fils de Dieu s'il était un seul instant absent de nous. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est la garantie que nous sommes fils de Dieu. C'est ce que Paul dit aussi. Dans d'autres textes, par le Saint-Esprit, nous disons « Papa, Abba, à Dieu ». Cette identité de fils de Dieu, on en a beaucoup entendu parler. Je me rappelle d'un synode, il y a très longtemps. On avait des petits groupes l'après-midi ou le matin, on discutait, je ne sais plus. Je me rappelle, il y a des choses parfois qui restent. Je me rappelle d'une réflexion d'un ancien d'une église, d'une paroisse réformée. Mais qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu? Vous voyez, pour lui, c'était, ça ne voulait rien dire, c'était du charabia. C'était un langage de bondieuserie, quoi. C'est que Dieu est notre Père. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être fils de Dieu. Et Jésus nous met sur la piste ici que c'est une réalité qui nous n'aurons jamais fini de découvrir. Une réalité, un mystère merveilleux. Jésus dit ici, et vous aussi, vous témoignez parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça c'est dans Jean 16. Et vous aussi, vous témoignez parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça c'est dans Jean 15, pardon. Jean 15, 27. C'est toujours mal traduit dans toutes les traductions. On a mis des futurs. Mais quand on lit en grec, on voit que c'est un présent. Vous rendez témoignage. Vous témoignez. Le verbe est au présent, intemporel. Vous témoignez parce que vous êtes. Le verbe être est aussi au présent. Vous témoignez parce que vous êtes. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi dès le commencement. Ce présent, ces deux présents, doivent nous faire réfléchir. C'est un témoignage éternel dont nous sommes porteurs. Et c'est aussi une identité éternelle dont nous sommes porteurs. Vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, quand on cherche qu'est-ce que ça veut dire dès le commencement, il faut évidemment, dans un évangile, penser au commencement de l'évangile qui est le baptême de Jean. Jésus a été baptisé par Jean. Jean baptisait que des pécheurs. Il n'a baptisé que des gens qui avaient des péchés à confesser là. Qui avaient une vie qui n'était pas du tout en règle avec Dieu. C'est ceux-là qui baptisaient. Et Jésus a demandé ce baptême à Jean. C'est un mystère. Jean, de plusieurs textes nous disent, Jean, comprenez pas ça. Jésus dit, je veux être baptisé par toi. Il faut que ainsi j'accomplisse la justice de Dieu. Que toi et moi, on l'accomplisse ensemble. Vous voyez, c'est un mystère que Jésus est baptisé par Jean. Mais il a voulu ça. Et pourquoi? Pour que nous n'ayons aucun doute à avoir le Saint-Esprit nous aussi. Car c'est lui qui a demandé le baptême et l'a reçu. A reçu le Saint-Esprit en sortant de l'eau. Alors nous, qui sommes de cette race-là, de gens qui ne sont pas en règle avec Dieu, alors nous recevrons le Saint-Esprit par Jésus. Nous n'avons aucun doute sur le Saint-Esprit, parce que Jésus l'a reçu au baptême de Jean. Mais quand on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes avec moi depuis le commencement, il y a probablement aussi, c'est même certain, une allusion à un commencement, qui est la création, qui est même au-delà de la création, avant la création. C'est une particularité de la foi judéo-chrétienne de dire qu'il y a un commencement. Le monde n'a déjà pas toujours existé. Il y a d'autres religions, vous pouvez suivre d'autres religions si vous voulez, où on ne considère pas du tout qu'il y a une création. On considère que tout ça, tout ce qu'on voit, c'est un tout, on fait en partie d'un tout qui a toujours existé, qui se transforme, qui se renouvelle, mais c'est toujours le monde, voilà. Le monde est Dieu, quoi. Mais nous croyons qu'il y a eu un commencement, une création. Jésus dit, vous êtes avec moi depuis le commencement. Quand Dieu a créé, il avait déjà décidé que nous serions dans le Christ, de nous mettre dans le Christ, sur la croix, dans le Christ, dans la tombe, dans le Christ ressuscité, dans le Christ à sa droite. Nous n'avons pas fêté l'ascension, mais c'est une fête très importante parce que nous sommes dans le Christ à la droite de Dieu. Notre position, elle est là. Notre identité, elle est là. Et ce n'est pas notre œuvre, c'est Dieu. Donc Jésus nous dit, vous êtes avec moi, dès le commencement de toute éternité, vous êtes. Pour le Père, vous avez une identité qui est en moi, qui est avec moi, jamais séparée de moi. Et c'est pourquoi vous témoignez. Amen.